essentiel. Il faut sauver le soldat Martinon. Mobilisons-nous. Mobilisons-nous. Mobilisez tous les auditeurs.
Oui, bonjour. Je vous appelle parce que là, vraiment, c'est à vomir, quoi. C'est à vomir. Bon, toutes les semaines, on en lit dans le canard. Il y a de quoi vraiment être écœuré de ce qui se passe en ce moment. C'est terrible, quoi. Mais alors là, ce que je viens de lire, là, j'y crois plus, là. Là, il y a Estrosi, je lis ça dans le canard, Estrosi, le secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer. Alors, Estrosi devait partir le 23 janvier aux États-Unis. Bon, déjà, ils partaient avec toute une bande, ils étaient déjà toute une clique à se déplacer aux frais de la princesse. Mais alors, dans la matinée, le chéri, il a appris qu'il y avait une petite sauterie chez Sarko à 18h30. Il y avait un petit coup de champ à boire. Et donc, il a décrété qu'il partait plus à l'heure aux États-Unis, qu'il partait plus par l'avion qui était prévu, et qu'il fallait lui trouver d'urgence un avion pour partir plus tard, juste pour aller boire un petit coup chez Sarko, quoi. Et vous savez combien ça a coûté, la petite affaire du caprice de monsieur Estrosi, qui voulait boire un petit coup chez son pote à 18h30. Et bien, pour partir un peu plus tard dans la nuit, et bien, qu'est-ce qu'il a fait? Et bien, il est allé louer un petit avion chez son pote d'assaut, hein, le pote de Nico. Tout simplement, ça reste en famille. Il est allé louer un petit avion et ça a coûté quoi au contribuable français? 140 000 euros. 140 000 euros parce que monsieur Estrosi avait envie de boire un coup chez Sarko à 6h du soir avant de partir. Je suis mais révoltée. Je suis dégoûtée. Je sais pas ce que foutent les Français. Qu'est-ce qu'ils foutent? Quand on va tous se bouger, là, pour faire cesser ça? Quand on voit tous ces gens, mais des millions de gens qui comptent leurs thunes, qui comptent leurs euros pour aller faire leur petite course, mais c'est une honte, quoi. Mais c'est un scandale. Tous les Français devraient savoir ça. Qu'Estrosi, il a été claqué 140 000 euros pour aller boire un coup chez son pote, quoi. Mais je suis révoltée.
Les jolies colonies de la France, merci Sarko de venir nous voir. On n'est pas prêt d'avoir l'indépendance en ce Yukaidi, Haïdi, Haïda. Bon, je sais, on dit plus colonie, mais département d'outre-mer. Mais quand on voit ce qui se passe ici en Guyane, département français d'Amérique de 209 000 habitants, officiellement, on peut encore avoir quelques doutes. Bon, c'est vrai, on n'est pas tout à fait oublié, puisque le président Sarkozy et sa clique de 7 ministres viennent nous rendre une petite visite ce lundi. Alors on va vous montrer de belles images de la forêt, et peut-être même le président et sa femme en pirogue, sur le fleuve Oyapok, hein, parce que le Maroni, il vous l'a déjà montré avec l'autre. Alors on va sûrement vous rappeler que la plus grande frontière de la France, c'est avec le Brésil, et que Lula, c'est notre copain, et qu'il y a peut-être moyen de lui refourguer une centrale nucléaire, hein, sait-on jamais. Mais on ne vous dira pas, par exemple, qu'à l'hôpital de Cayenne, les femmes dorment sur des brancards avec leurs bébés dans le couloir de la maternité, faute de place dans les chambres. On ne vous dira pas non plus que plusieurs milliers d'enfants ne sont pas scolarisés, faute de place dans les écoles. Par contre, on va vous expliquer comment Super Sarko a sauvé le Marais de Caux des griffes de la grosse firme canadienne Cambio Rheingold. Et puis on vous dira que le drame de la Guyane et de leur paillage, ce sont les clandestins. Ouh, les vilains clandestins. Mais sans vous dire que leur paillage clandestin est généré par leur paillage légal et qu'il permet d'exploiter à bon compte de pauvres gars qui crevaient la dalle dans leur pays et viennent ici pour bosser dans des conditions quasi esclavagistes. Ah, on va vous parler de la fusée Ariane, ça oui. Avec des belles images, hein, puisque pour l'occasion de la visite présidentielle, toutes les moquettes du CSG, du centre spatial guyanais, ont été changées. Les routes du centre goudronnées, repeintes. Mais on oubliera de vous montrer que toutes les routes des quartiers de Kourou sont toutes défoncées. Et qu'à quelques kilomètres de là, des gens vivent encore dans les bidonvilles. Bref, une fois de plus, on va bien sélectionner les images pour vous montrer comment la France tire profit de ce bout de forêt amazonienne, tout en escamotant la triste réalité sociale de ce pays. Et c'est encore un peu ça la France d'aujourd'hui. Les jolies colonies de la France.
C'est génial quand même, Daniel Mermet. En écoutant votre émission, on apprend qu'un nouveau lieu d'insécurité en France, ce sont les meetings politiques de l'UMP à Corbeil-Essonne. Bon, tout le monde sait que les reporters sur le terrain sont juste là pour prendre des coups. Alors donc maintenant, on va devoir se servir des nagras comme boucliers. Ou alors Radio France va devoir faire protéger ses reporters politiques par des gardes du corps. Bon, évidemment, on avait cru comprendre que la liberté de ton de la BACJ suit, son esprit réfractaire, tout cela, ça ne plaisait pas à tout le monde. C'est ce qu'il fallait démontrer. Eh bien voilà, c'est fait. Enfin, heureusement que vous et toute votre équipe, vous êtes encore là. Salut à tous, bon courage. Et comme disait Zazie, l'héroïne de Kono, mort aux vaches. C'était Pascal Dismonde, une ex de France Culture.
Oui, bonjour, Pino de Metz, là j'ai une petite réflexion là. Quand un fils d'ouvrier il est nul à l'école, on lui dit
« Tire à l'usine comme ton père !»
Et quand c'est un fils de politicien, on lui dit
« Tu feras de la politique comme ton père !»
Voilà, ciao.
Et ben voilà, quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37. Pascal Pascariello se remet des brutalités qu'elle a subies vendredi soir lors d'un reportage à Corbeil-Essonne, lors de ce meeting avec, en présence de monsieur Dassault. Et je le rappelle, elle a été prise à partie par les gardes du corps de monsieur Dassault et par les gens qui étaient présents dans cette assemblée. Très brutal. Totalement, elle se remet et on en parlera dans les reportages à venir sur les élections dans cette charmante cité de Corbeil-Essonne. Mais elle va bien, parce qu'on a eu beaucoup évidemment de messages pour savoir si notre Pascale s'en remettait. Elle s'en remet, c'est une vraie reporter. Aujourd'hui on va retrouver des nouveaux reporters. Aujourd'hui là-bas fait des petits. Où est-ce qu'on a fait des petits? À l'École supérieure de journalisme de Lille. L'École supérieure de journalisme de Lille nous a demandé, à Antoine Chao et moi-même, de venir diriger un stage de formation au reportage radiophonique. Et on a trouvé ça tout à fait intéressant, parce que c'est toujours en apprenant qu'on apprend, et parce que c'est les étudiants de cette deuxième année de l'ESJ et sont des gens tout à fait sympas, charmants, motivés surtout à apprendre le reportage radiophonique en longueur. Il y a le reportage court, que vous entendez sur France Info ou dans les tranches d'info de France Inter, et puis il y a le reportage long, dont la base J'y suis s'est fait une spécialité. Mais vous avez d'autres émissions qui pratiquent le reportage, Interception, etc. Ça a été une lutte assez longue qui s'est livrée à Radio France. Il y a des années, le reportage était vu comme un moyen assez désuet devant l'avancée, évidemment, de la télévision, de l'image, etc. Et puis, on a tenu bon. Et finalement, aujourd'hui, le reportage a toute sa place à la radio et pas seulement une portion congrue, au point que les étudiants de cette école de journalisme sont tout à fait ravis de se spécialiser en radio, pas seulement en reportage, mais en radio. Il y a une spécialité presse écrite, il y a AFP, il y a évidemment télévision, et puis il y a radio. Donc on a passé plusieurs jours avec eux, on a étudié le reportage, le choix des sujets, l'angle, la prise de son, la préparation, et puis ensuite le montage, le mixage, tout le vocabulaire et toute la grammaire du reportage. Ça a été passionnant, ça a été assez long, et puis ce vendredi dernier c'était l'écoute de tous les reportages. C'était des formats de 20 minutes, il y avait 14 étudiants qui se sont livrés à cet exercice, et donc on va aujourd'hui, on peut pas écouter évidemment 14 fois 20 minutes dans l'espace de la basse et j'y suis, mais on a choisi, non pas sélectionné parce que ça fait un peu trop, mais enfin des certains sujets qui nous ont plus plu avec Antoine, et on reviendra sur une, peut-être dans les jours prochains, on va voir au gré de la programmation de la basse et j'y suis, sur d'autres sujets traités par ces étudiants. Donc voilà l'heure du jour que nous allons passer ensemble là-bas a fait des petits. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis. 01 56 40 37 37.
Alors en fait, Bernadette Soubirous, elle a vu le loup, mais comme elle a eu peur de dire qu'elle avait vu le loup, elle a dit qu'elle avait vu la Sainte Vierge, cette idiote. Eh oui, et tout le monde y a cru. Allez, ciao.
Bonjour Daniel Mermet, bonjour les auditeurs, c'est Nadia du Vaucluse. Voilà, j'appelle pour parler de ce cher pseudo-intellectuel, je veux dire Bernard-Henri Lévy, et surtout de sa dernière cause médiatique, surtout très médiatique, parce que mettre en avant une femme qui s'appelle Ayaan Ali, et qui soi-disant se bat pour la cause des femmes musulmanes, en se pavanant de plateau télé en plateau radio, et loge dans des hôtels 5 étoiles, cette femme serait menacée par des intégristes musulmans pour ses propos contre l'islam. Hein, donc c'est pas nouveau tout ça. Et les Pays-Bas dont elle est citoyenne ne peuvent plus payer sa sécurité. Donc moi je dis elle devrait demander à Bush de payer sa sécurité, parce qu'entre-temps elle est partie vivre aux États-Unis à cause du fait qu'elle avait menti sur sa situation personnelle pour avoir la nationalité néerlandaise. Bref, cette femme est une opportuniste qui s'est mise en avant comme beaucoup d'autres après le 11 septembre 2001, alors que jusque-là elle ne s'était jamais intéressée à l'islam et encore moins au sort des femmes musulmanes. Donc elle en a profité depuis pour écrire des livres contre l'islam où elle insulte les musulmans, etc., etc., plutôt qu'une vraie critique constructive qui ferait avancer les choses. Surtout pour ces femmes qui, à mon avis, n'ont aucun besoin de quelqu'un d'aussi faux qu'elle. Si elle était vraiment sincère dans son combat, elle irait en Somalie, dont elle est originaire, pour se battre aux côtés des femmes somaliennes qui vivent dans des conditions économiques et sociales épouvantables et dont le plus souvent serait l'accès, le plus urgent, je dirais, serait l'accès à l'éducation pour pouvoir se libérer elle-même, et que c'est que grâce à l'instruction que l'individu s'élève, et surtout pas grâce au show médiatique qui est mené toujours par les mêmes et qui ne mettront jamais leur petite personne sur le terrain au service de ces gens, au service de ces causes. J'ai beaucoup plus de respect pour quelqu'un comme l'Iranienne Shirin Ebadi, qui elle reste dans son pays et se bat au quotidien pour changer les mentalités de l'intérieur. C'est une vraie combattante de la liberté et non pas ce charlatan de BHL et de quelques autres qui sont bien connus d'ailleurs, et qui saute sur toutes les causes qui puissent lui permettre de squatter les plateaux télé ou radio.
Oui, bonjour l'équipe de là-bas, si j'y suis. C'était une question pour notre ami BHL. On espère qu'il va aller soutenir le Nigérian qui est enfermé au centre de rétention de Toulouse. Hein ? Clément, je ne sais plus son nom, mais bon. Tout le monde aura compris. Mais certainement que BHL, Ségolène Royal, Ramayad et compagnie qui donc soutiennent l'ex-députée néerlandaise, bon ça c'est très bien, mais on aimerait qu'ils aient pas le soutien sélectif. Ce monsieur donc nigérian est en danger de mort dans son pays. Ah, mais c'est vrai que lui il est pas poursuivi par les intégristes. Il est poursuivi par d'autres intégristes, si si, en fait, hein. Les intégristes du pétrole. Qu'on ne veut pas partager au Niger, hein, au Nigeria, pardon. Dont je rappelle que la compagnie multinationale Shell a pollué de nombreux cours d'eau là-bas. Ouais. Non, ça les intéresse pas, ça. Ah ouais, partager les richesses, non, ça doit pas les intéresser, les BHL et compagnie. Non, parce que ça, c'est communiste et ça, ils aiment pas, hein. Allez, ciao tutti. Et j'espère que Clément, le Nigérian, va s'en sortir. Sinon, c'est la honte.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis, avec Antoine Chao. Là-bas, fait des petits, avec les étudiants de l'École nationale supérieure de journalisme de Lille.
Flight number 2, arriving from...
C'est bon ?
Ouais.
C'est bon ?
Ouais.
Bon voilà, donc ça c'est le grand jour pour vous tous. Aujourd'hui on va écouter... Combien vous êtes là ? Faut juste...
14,
donc on va écouter 14 fois 20 minutes de vos... Alors on va dire de reportages ou docu, on dira l'un ou l'autre indifféremment. Voilà, vous avez bossé combien de temps là-dessus ?
Longtemps.
Voilà, là tu peux tourner ton micro... vers ceux qui veulent répondre. Vas-y, qui explique un peu le travail ?
On a travaillé sur 15 jours à peu près, puisqu'il y avait toute la prise de contact, trouver un sujet, décider de l'angle. Ensuite, il y avait le travail sur le terrain. Et ensuite, dernière touche, le travail ici, à l'école de montage, de mixage, avec Antoine.
D'accord. Est-ce que vous pouvez dire qui vous êtes et où on est ?
Moi, je m'appelle Marie Guibal et je suis étudiante dans la 82e promo de l'ESJ à Lille.
Bah, je m'appelle Audrey Tison et je suis aussi de la 82e promo de l'école du journalisme de Lille. Et en fait, on est l'équipe de la SP Radio, spécialité radio.
Moi, c'est Michel et j'ai travaillé sur un mouvement anti-pub.
Moi, c'est Laurie, j'ai travaillé sur les quotas de pêche. Je suis partie en mer une journée, c'était bien.
C'était bien ou un
c'était
petit peu mouvementé. Bien
C'était bien, mais j'étais complètement malade.
Ah bah oui, ça voilà. Faisait partie du programme. Toi, t'as fait la campagne électorale.
Oui, moi c'est Aurélie Herbeaumont et donc j'ai suivi les trois listes principales en compétition pour les municipales à Hénin-Beaumont.
D'accord.
Moi c'est Tiffaine et j'ai suivi une prof de français dans un lycée professionnel à Lille.
Voilà. D'accord, c'est la journée d'une...
D'une prof.
Moi je m'appelle Alix et j'ai fait une journée avec les carnavaleux de Saint-Paul-sur-Mer près de Dunkerque.
Alors
je sais tout sur le rituel du carnaval, de la préparation aux chapelles,
les chansons.
Et je connais, j'ai à peu près converti Antoine Chao.
Et ça c'est difficile. Vas-y, et toi ?
Alors moi c'est Julie et j'ai approfondi mes connaissances sur le premier baiser.
Donc moi c'est Frédéric et j'ai travaillé sur les mines d'ardoise de Trélazé à côté d'Angers.
D'accord, d'accord.
Moi c'est Tony et je suis allé passer une après-midi entière dans une maison de retraite avec les petits vieux.
Et les petits frères des pauvres, c'était
et
ça.
Et les petits frères des pauvres, exactement.
D'accord.
Émilie, j'ai passé trois après-midi dans une association qui accueille les personnes atteintes d'Alzheimer pour les distraire, faire des exercices de mémoire.
Avec les familles, avec tous les...
Avec les familles et le personnel.
D'accord.
Moi, c'est Charlotte et j'ai travaillé sur les monts de piété, qui s'appellent aujourd'hui crédits municipaux. C'est ces endroits où on dépose des objets de valeur et on reçoit du liquide en échange, pour dépanner un petit peu.
D'accord.
Et
d'accord.
Puis, il manque Sarah aussi, qui a travaillé sur les Roms. Voilà, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a travaillé sur... qui était rencontré des Roms, oui.
Prenage de son, vas-y.
Moi, je m'appelle Ava et j'ai travaillé sur les gros mots.
Voilà, d'accord. On a écouté un petit peu avec Antoine. Ça commençait bien, hein. Je ne sais pas ce que c'est devenu le sujet depuis. Donc là, on va écouter... on va tirer au sort. Vous avez prévu un tirage au sort. D'accord, d'accord. Bon, ben voilà, on démarre.
Quel truc. Maestro. On va écouter le documentaire de Julie Pietri, Le Premier Baiser.
Je regarde un souvenir doux amer. C'était à la fois excitant parce que c'était le premier baiser. C'était à la fois pas satisfaisant parce que je savais déjà à l'époque que c'était pas forcément une que je voulais embrasser, mais un.
Stressée, non. Pas du tout. J'étais curieuse. Curieuse parce que quand même, je me suis dit, il va me mettre la langue, ça c'est sûr. Et j'avais déjà entendu parler de ça. Mais j'avais dit, comment je vais faire, comment je vais réagir. Est-ce que ça va m'écœurer? Ah non. M'a pas curé du tout d'ailleurs. Je me suis même plus demandé après si c'était la langue ou autre chose, je sais pas. C'était tellement agréable.
Oui, c'est assez dégoûtant. J'ai pas très envie que si mon petit ami il m'embrasse, et bah qu'il m'embrasse comme ça.
Si tu veux bien me laisser faire pendant une journée entière, je suis capable pour te plaire de te donner 24 000 baisers. Je prends des paris à la ronde, sans perdre plus de 10 secondes. Je promets devant tout le monde de te donner 24 000 baisers. Je ne sais pas ce qui se passe. Vois-tu chérie, plus je t'embrasse, plus j'ai envie de t'embrasser.
J'étais en vacances en été dans une résidence, bref, au sud de la France. Et j'avais rencontré un garçon, il s'appelle Romain. Il était brun et assez beau, ça va. Et il était très sympa. Alors au début, on était devenus copains, amis. Et moi, j'étais pas tout de suite amoureuse. Ça m'intéressait pas, quoi. Et le dernier jour des vacances, je crois qu'il m'aimait bien parce qu'il rougissait quand il me voyait. Je lui avais fait un bisou sur la joue, mais en fait, c'est sur la joue. Mais ça, c'était très rapide.
Et comment il a réagi alors?
Lui, je crois qu'il était vraiment tout rouge, il a rien dit du tout. En fait, il m'a regardé comme ça. L'air de dire non, mais qu'est-ce que tu te prends, t'es complètement folle.
Et t'as trouvé ça bien?
Plus gênant que bien. j'avais peur. Au début j'avais peur et après c'est devenu d'un coup. J'avais peur de sa réaction parce que s'il le sait pas, du coup après il peut m'en vouloir et tout.
Et ton premier baiser sur la bouche, tu l'imagines comment?
Que ce soit pas prévu d'avance, superficiel. Que, enfin, c'est comme ça, enfin, on se pose même pas la question, quoi. Bah, je crois qu'il n'y a pas trop de mode d'emploi, en fait. Je pense qu'il n'y a pas de mode d'emploi. En fait, je ne sais pas quand ça m'arrivera. Il y en a qui prédisent déjà l'avenir, mais moi, pas. Je ne sais pas.
Quand tu vois des adultes ou des personnes un peu plus grandes s'embrasser, t'en penses quoi?
Oui, c'est assez dégoûtant.
Pourquoi dégoûtant?
Je vais pas faire un tableau, mais parce que, bref, ils le font avec passion, on va dire.
Ça veut dire quoi avec passion, pour toi?
Avec la langue, oui. Ça, j'ai un peu peur. J'ai pas très envie que si mon petit ami il m'embrasse, et qu'il m'embrasse comme ça.
Bon, en Polynésie, ça a été magique, c'est sûr que j'avais 6 ans. J'étais en maternelle, j'étais à Caen, en Normandie. Ça m'a fait tout bizarre, quoi. J'ai compris ce que ça veut dire un baiser, et puis ça m'a fait chaud au cœur. J'étais chez ma copine, en fait, et puis on était assis, on était en train de goûter, et puis on s'est regardé, on s'est rapproché, comme dans les films, on va dire, et on s'est embrassé, quoi. C'était par instinct, c'était pas comme un pas que j'ai appris, vous voyez. C'était pas pareil, quoi, c'était dans le moment, quoi. Voilà, ça fait comme ça naturellement.
Tu avais des modèles avant tout ça? Enfin, t'avais regardé des films, je sais pas, de la musique, ou tu regardais les adultes?
Les clips américains. Les clips américains, j'ai vu ça. Et puis voilà, quoi.
C'était ton modèle, ça, les clips américains?
C'est ça, c'était les clips américains, mon modèle. Ils ont fait un peu trop, mais c'était un peu près le même principe, en fait. Donc voilà, quoi. Je me suis inspiré un peu d'eux, on va dire.
Et c'était bien ou c'était raté?
Non, c'était bien, franchement, c'était pas pour me l'inventer, mais c'est sûr que c'était bien quand même. Ouais, c'était bien.
Elle aussi était contente?
Ah, elle était contente.
Je m'appelle Marie-Rose, donc je vais vous dire mon âge, ça va vous sembler drôle, j'ai 80 ans. On a eu des relations de se promener, de ceci, cela, et quand on me disait au revoir le soir, c'était je te fais un baiser sur chaque joue.
Kiss.
Au départ, c'était très gentil, mais moi, pour moi, ça devenait un peu bizarre. J'en parlais avec mes copines, je me disais, mais tu te rends compte? Elles me disaient, mais toi, tu te rends pas compte de la chance que tu as, il te prend pas à la hussarde, Et puis un jour, le soir, on avait fait une plus longue promenade, et puis ce qui m'a fait drôle, c'est qu'il m'a demandé s'il pouvait m'embrasser. Je lui ai dit, mais tu m'embrasses tous les jours. Non, mais il me dit, si je pouvais t'embrasser autrement. Mais j'ai dit, moi, j'attends que ça. Il me dit, c'est vrai? J'ai dit, oui, j'attends que ça.
Vous l'attendiez tellement, alors justement, que est-ce que vous étiez particulièrement tendu, stressé ou pas du tout?
Stressé, non. Pas du tout. J'étais curieuse. Curieuse, parce que quand même, je me suis dit, il va me mettre la langue, ça c'est sûr. J'avais déjà entendu parler de ça. Mais j'avais dit, comment je vais faire, comment je vais réagir? Est-ce que ça va m'écœurer? Après tout, un an. M'a pas écœuré du tout, d'ailleurs. Je me suis même plus demandé après si c'était la langue ou autre chose, je sais pas. C'était tellement agréable. C'était comme un acte charnel, quand même. J'avais l'impression qu'il m'insufflait beaucoup de force et que moi, les miennes, je les perdais parce que je sentais que là, c'était quelque chose, que ma liberté était terminée. C'était trop, trop bon. Fallait que je recommence le plus vite possible.
Premier baiser, vous perdez votre liberté.
Oui. Mais oui, j'ai dit, je perds ma liberté. Je perds ma liberté dans un sens que j'avais l'impression que je lui donnais ma liberté. On appelait ça le rond-point des acacias. Alors, donc, il y avait beaucoup d'acacias. Il y avait des boules rouges. Et c'était très joli. C'était pas odorant, c'était très joli. Et curieusement, je me souviens qu'il y avait beaucoup d'hannetons aussi. Il y avait des châtaigniers, il y avait beaucoup de hannetons. C'est curieux. Et je pensais, en l'embrassant, pourvu que je n'ai pas un hanneton qui se prenne dans mes cheveux, et que ça me détourne mon attention de ce qu'il est en train de me faire. Alors c'était vraiment, pour moi à l'époque, c'était vraiment un bel endroit. C'était un endroit rêvé. Et je voyais pas loin ma maison, alors je me disais, il ne va pas abuser de moi, il ne va pas... Parce que quand même, à ce moment-là, on se disait... Si tu embrasses vraiment, si tu donnes vraiment toute ta confiance, est-ce qu'il va pas se dire « je peux tout de suite aller plus loin ?» Mais je ressentais pas ça du tout avec lui.
C'était son premier baiser, lui aussi ?
Oui. Oui, justement, c'était son premier baiser, oui, oui. Oui, il me l'a toujours dit, puis j'en suis certaine, parce que
dès le départ, allez, comme une fille, elle aurait dit, elle n'avait pas l'air très dégourdie dès le départ. Hein? Bon. S'il avait été à l'armée, peut-être qu'il aurait été plus dégourdi. Mais c'était avant l'armée. Mais si, si, après, il a très vite compris. Et moi aussi, puisque dans un sens, je ne l'avais jamais fait. Et j'ai pensé que c'était sûrement quelque chose qui allait durer. Je l'ai ressenti. Pourtant, j'avais déjà eu des baisers volés, tout ça, mais des baisers volés, comme un bonbon qu'on suce en passant. Mais c'était tout. Ça n'avait rien du tout à voir. Et j'avais raison, puisque c'est un baiser qui a duré 56 ans. Et après tout ça, il me demande si je l'aime. À la fin du baiser, il dit « Tu m'aimes ?» Je dis « Je ne sais pas comment je pourrais faire autrement. » C'est vraiment... Ça s'appelle aimer à la folie. C'était vraiment terrible ce premier baiser, mon Dieu. Mais je crois que j'en ai reçu encore d'autres après de lui. C'était plus le premier, mais c'était encore aussi... aussi délicieux. Si ce n'était pas encore plus délicieux. Non, avec lui, c'était vraiment, comme on appelle, le grand frisson. Comme on disait, le grand frisson. Je voudrais bien que ça recommence.
Et donc, vous avez embrassé une personne ?
Une personne.
Oh. Une personne, oui. Et je pense que, pour maintenant, je n'en embrasserai jamais d'autres.
Et est-ce que vous vous souvenez de votre dernier baiser ?
Oui. Le jour de sa mort. Mais... C'est très curieux, mon mari avait la maladie d'Alzheimer, donc il se souvenait plus de... pas grand-chose. Mais il me voit n'importe où, j'étais en train de faire la vaisselle ou n'importe quoi, il a toujours continué à le faire, embrassé dans le cou. Donc, pour moi, il n'y a pas eu d'arrêt. Même avec sa maladie, il n'y a pas eu d'arrêt. On s'est toujours embrassé et toujours aimé. Très fort.
Il y avait dans leur baiser,
Ta grand-mère de 80 ans, c'est un morceau d'anthologie. Tu vois, ça fait quand même 30 ans que je fais de la radio. C'est magnifique, absolument magnifique. Après ta grand-mère, tu peux plus rien faire, quoi. Tu vois, je sais même pas s'il faut piaf après, parce que tu sursignifies. C'est une erreur qu'on fait souvent dans la basse, si j'y suis. Il y a une histoire, puis tu vois, mettez-vous bien ça dans la tête. Alors on en colle une autre derrière. Des fois, c'est rien, tu vois, un silence ou presque rien encore qu'on reste dans la. Tu vois, dans ce qu'on vient... Enfin, écoute, elle est fabuleuse. On se dit, elle va cabotiner. Elle cabotine pas, quoi. C'est limite. Hop ! Et c'est parfait. C'est d'une pureté, c'est d'une authenticité. C'est très rare d'arriver à ça. Et ça, n'ayez pas peur de monter vos histoires comme ça, de façon dramatique, parce qu'il n'y a pas un dramaturge... Il n'y a pas un dramaturge qui peut inventer ce personnage-là. Mais surtout que c'est bien dessiné, elle est parfaite. On la situe, son âge, et on découvre le truc au fur et à mesure. Quoi. Il y a des réflexions à faire sur le travail de Julie, là.
Juste, comment tu as rencontré la dame de 80 ans ?
Bah alors, c'est complètement au hasard. J'étais un peu désespérée. Donc je suis allée dans un gymnase. Et elle était en train de faire un cours de gymnastique. Et je suis arrivée dans la salle, j'ai commencé à interroger les gens sur ça, et je suis tombée sur elle. Et elle a commencé à me raconter son histoire. Au début, elle voulait pas me la raconter parce que son mari était décédé il y a pas très longtemps, et ça la prenait à la gorge. Enfin, je le sentais, et je l'ai revue après. On a eu un nouvel entretien après, et c'est là vraiment où elle s'est livrée complètement. La première fois était beaucoup plus. On entend des bouts à un moment donné. Elle était beaucoup plus nouée et elle disait beaucoup moins de choses aussi. Elle arrivait pas. Voilà, donc ça s'est fait en deux fois.
C'est ça. On est des braconniers. Robert Doisneau, il dit on est des braconniers. Moi, je suis pas un chasseur. Quand il disait chasseur d'images, alors là, le chasseur, tu vois, le viandard qui tue, etc. Mais par contre, on est des braconniers. Quand on met des pièges, on installe des trucs, et clac, tout d'un coup, on chope le truc. Ça, c'est exactement ça. Le reportage, c'est... Tu vas dire tout à fait par hasard, c'est un coup de chance. Non. Il y a un moment, quand tu deviens un bon reporter, il n'y a plus de coup de chance. Quoi. Mais t'as cette déprime à tous les coups. Tu vois, ça y est, le sujet est en train de foirer, c'est nul, je m'emmerde, ça fait... Au petit déjeuner, tac, il y a le personnage que tu cherchais. Il y a le coup de fil qui arrive immanquablement, mais ça passe toujours par des moments difficiles. Parce que l'idée d'aller dans un gymnase pour tout ça, c'est pas des hasards, c'est parce que tu cherchais. Voilà, on est à l'école de journalisme de Lille avec les étudiants de la 82e promotion de cette école fameuse. Et c'est les élèves de la spécialité radio. Il y a une spécialité radio en deuxième année de cette école. Et on nous a demandé, avec Antoine Chao, de diriger un stage de formation au reportage radio. Ça a été un grand plaisir. Là, vous venez d'entendre un extrait d'un reportage. On est avec les étudiants, on fait des commentaires les uns les autres sur ce qu'on vient d'entendre, et on passe au suivant.
Alors, Mémoire en morceaux d'Émilie Beaujard.
Nous sommes quel mois ?
Janvier.
Janvier ? Monsieur Vamour, nous sommes quel mois ?
Je suis du Vamour. Quel mois ?
Avril.
Avril.
On est du mois d'avril.
Janvier. Et de quelle année ?
2008. Je ne sais plus si c'est 5 ou 6. Il me semble qu'on est le 5 ou 6, mais je ne suis pas sûre.
En 2008. On a fêté.
On est déjà en 2008.
Oui. 22 janvier 2008.
Ben oui, on a dit 2005. Oh, on en retard.
L'accueil de jour a été ouvert en 1998. Alors nous accueillons des personnes, maximum 12 personnes, du lundi au vendredi. C'est un double objectif, c'est un lien social surtout, qui est très important chez nous, c'est surtout le lien social qui compte énormément. Ensuite il y a des activités où ces personnes peuvent s'exprimer.
Oui, ça a du stress, ça passe le temps, ça permet de voir des personnes agréables. Et je viens tous les jours. Depuis combien de temps ? Je ne savais pas vous le dire, mais depuis longtemps. Hein. Je ne sais pas si c'est 7 ans, 8 ans, je ne sais pas. Alors hier, on était... Bon, hier, qu'est-ce qu'on a fait hier ? Je ne sais plus. Je viens tous les jours.
Mais la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom ? Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on ? Pourtant c'est fou ce que j'aimais l'appeler par son nom.
Actuellement, on est aux alentours un peu plus de 850 000 patients atteints de la maladie d'Alzheimer en France, ce qui est énorme. On arrive au papy-boom maintenant. On se retrouve dans une situation où, avec l'âge, il y a une augmentation du risque de maladie d'Alzheimer, alors qui est lié au vieillissement de la population, hein, et parce qu'on diagnostique mieux, évidemment. Alors, la maladie d'Alzheimer, c'est en fait ce qu'on a longtemps appelé le gâtisme des grands-parents. Or, maintenant, on sait que c'est une réelle maladie. Ça se traduit comment ? Ça se traduit par des pertes de la mémoire. Alors, tous les jours, on perd la mémoire. Vous vous souvenez pas où vous avez mis vos clés, vous voyez un visage, vous dites je le connais, je l'ai sur le bout de la langue. C'est pas ça, la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, c'est par exemple, vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez déjeuné ce matin. Vous ne vous souvenez pas de quelque chose que vous venez juste de faire ou juste de dire. Vous êtes désorienté, vous avez ces pertes de la mémoire et vous êtes un petit peu isolé dans notre monde. Quoi. Je pense que ça reste une maladie qui fait peur parce qu'on sait qu'il n'y a pas de traitement miracle pour l'instant, mais on sait que derrière, il y a beaucoup d'espoir pour les thérapeutiques de cette maladie. Donc je pense que c'est aussi le message à retenir. C'est peut-être une maladie qui fait peur, mais on a passé la période la plus difficile. Maintenant, on connaît bien la maladie.
Ça va pas ? Vous vous sentez pas bien ?
Non, je suis pas bien.
Vous êtes pas bien du tout ?
Non.
Monsieur Vamour, il sent pas bien. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Vamour ?
Oui.
Qu'est-ce qui se passe ?
Non, il va rien.
Qu'est-ce qu'il y a, tu vas pas
raconter un mot? Ben, il n'y a rien à dire. Je ne sais même pas où que je suis.
Ben, vous êtes ici avec nous à l'accueil de jour pour passer l'après-midi. D'accord?
Oui.
Et après, vers 5h, on va vous ramener chez vous.
En 5h?
Oui. Hein? Il n'y a plus beaucoup? Il est déjà 3h. Ouais. Donc là, faites un petit peu d'activité. Après, on va goûter, comme la dernière fois quand vous êtes venu avec votre fils. Et puis après, tout doucement, il va arriver l'heure et puis on pourra vous ramener chez vous. D'accord?
Oui.
Vous voulez un petit verre d'eau? Vous avez soif?
Ah, un verre d'eau, oui.
Oui, je vais vous ramener un petit verre d'eau.
Les oiseaux qui sont là, ce sont des perruches. Je crois, on dit toujours des perruches. Quand on en parle, on dit toujours les perruches. Donc je suppose que ce sont des perruches.
Oh, ça s'est déclaré il y a à peu près 6 ans. Elle a eu un changement de comportement surtout. Elle qui n'était jamais dépressive, était vraiment, vraiment dépressive. Ça n'allait pas. Et un oubli, mais pas un oubli, donc immédiat. Ça a été assez rapidement de la confusion, des mélanges de souvenirs, de dates. Mais c'était pas très important, en fait, hein, mis à part ce changement d'humeur, ce changement de comportement. Mais le plus pénible, c'est la répétition. 10 fois, 20 fois, elle va répéter la même question, nous redemander la même chose. Ça, c'est difficile à vivre. Ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie et mon couple, enfin, bon, ça pose problème pour le mari, ça pose problème. Ça a posé beaucoup de problèmes pour ma sœur qui acceptait pas cette maladie, qui accepte toujours mal cette maladie, mais bon, maintenant, elle partage. Je veux dire, ça a été très difficile. C'est, au niveau familial, c'est très dur.
Vous avez le double 6 ?
Attention, les murs ont des oreilles.
Non, elle a demandé si j'avais le double 6. Elle dit non.
Le conjoint doit se libérer parce que la charge de l'aidant est énorme. On a du mal à imaginer ce que c'est d'être 24 heures sur 24 à devoir aider quelqu'un, surtout en fin de la maladie. Hein. C'est quelque chose qui est très difficile. Hein. Quand je parlais des troubles de la mémoire au départ, c'est vraiment quelque chose de léger. Mais après, c'est beaucoup plus dur. On a une personne qui est totalement dépendante. Hein. Donc l'accueil de jour, c'est vraiment quelque chose où il faut sauter le pas et il y a de la place en accueil de jour.
Miss Alzheimer enfile son manteau. Elle dit que c'est le DIA. Peut-être à la sortie de l'école, pour ses enfants de la quarantaine, ou bien acheter à manger. Il y a des beaux steaks chez le cordonnier.
Maman, ça fait 11 ans que je l'ai avec moi. Elle va avoir 87 ans. Oh ben là, ça diminue de jour en jour maintenant. Elle ne parle presque plus. Non, elle ne parle plus d'ailleurs. Elle ne sait pas dire où elle a mal. Elle ne comprend même plus pour monter dans la voiture. Elle participe plus au jeu non plus, à plus rien du tout. C'est petit à petit, tout par étapes. Et bon, là, au départ, elle savait parler, elle savait dire si elle avait mal, tout ça. Elle oubliait beaucoup, bien sûr, mais après, par étapes que ça s'est passé. Dans la nuit, elle me réveillait pour dire bonjour. Elle s'habillait la nuit. Ça a débuté comme ça. Non, si je lui donnerais pas à manger, elle mangerait pas. Bon, et on voit qu'avant, elle mangeait bien toute seule. Maintenant, il faut que je lui montre comment on fait. Puis bon, elle mange quelques fourchettes comme ça. Puis après, elle arrête. Entre deux, je lui donne moi-même. Parce que sinon, ça dure 1h30 pour elle manger. Maintenant, il y a longtemps qu'elle est incontinente. Là, c'est très, très dur parce qu'en plus, elle était fort pudique. Donc, elle se met comme ça, toute raide. Là, on ne sait pas... C'est difficile. Ça, la toilette, c'est très difficile. Bon, puis c'est difficile de voir sa maman comme ça, ouais. Parce que je me dis, si elle voyait toute la misère que j'ai pour la soigner, elle n'aurait jamais accepté parce qu'elle n'était pas comme ça. Elle était indépendante, quoi. Et je dois la surveiller toujours, toujours. Même aux objets qui sont autour d'elle, on ne peut rien lui laisser parce qu'elle met tout dans la bouche. Même ses boutons, elle va tourner un bouton jusqu'à quand elle arrive à le découdre. Et après, elle le met dans la bouche. Si elle participe à des jeux, à des dominos, tout ça. Faut avoir l'œil, quoi, parce que sinon, elle mange les dominos. Et puis, je suis plus sa fille depuis 2 ans. Hein, je suis sa jumelle. Parce qu'elle a une vraie jumelle. Et quand elle me parle, elle me parle comme si j'étais sa jumelle. Donc, je laisse comme ça depuis 2 ans. Je l'appelle Marcel au lieu de dire maman. Comme ça, je la contrarie pas.
Miss Alzheimer a mangé sa cervelle. Monsieur a perdu son amour. Stop, il n'y a plus personne.
On a une évolution entre 3 à 10 ans. Donc on ne meurt pas de la maladie d'Alzheimer, hein, on meurt des conséquences de la maladie d'Alzheimer. La majorité des patients atteints de maladie d'Alzheimer meurent en fait des conséquences de fausses routes. C'est-à-dire quand vous avalez, vous mangez, ça part dans l'estomac, mais de temps en temps, ben, on dit que c'est passé dans le trou à tarte et ça part dans les poumons. Et donc vous avez des infections pulmonaires et les malades d'Alzheimer souvent meurent de surinfections pulmonaires. Les médicaments qu'on a actuellement, ils sont symptomatiques. Ça veut dire qu'ils pallient aux symptômes de la maladie. Ça veut dire qu'on ne va pas retrouver la mémoire à un patient atteint de maladie d'Alzheimer, puisqu'en fait, les cellules nerveuses, il les a perdues. La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est stabiliser la pathologie. Donc, les médicaments actuels permettent de ralentir la progression des symptômes de la maladie, mais ne permettent pas de l'arrêter toujours.
6, 2, 4 et 6. Et 3. 1, 2 et 3.
Vous regardez après ma fille.
3, 4, 8, 9, 10, 11, 12,
13. Elle va bientôt arriver.
Ben, en principe, oui. En principe. Parce que des fois, elle finit à 6 heures, des fois, elle finit à 6 heures et demie. De toute manière, elle sait que je suis ici. Hein. Parce que je ne saurais pas retourner chez moi. Hein. Au Pile, je ne pas retourner à pied chez moi. Enfin, presque la rue du Pile, en face de chez moi, c'est la rue du Pile.
C'est à Roubaix ?
Oui, oui, au Pile.
Et ça fait longtemps que vous venez ici l'après-midi ?
Deux, trois mois. À peu près. C'est une fois le lundi, une fois le jeudi. Deux fois par semaine que je viens. Ah oui, ça change un petit peu les idées, puis bon, ben, ma mémoire, elle travaille un petit peu. Plus de voiture, plus de maison, plus de... Je suis dans un appartement, c'est heure. Ouais. J'ai jamais cru finir ma vie comme ça.
Mémoire en morceaux. Un documentaire de Émilie Beaujard, réalisé en janvier 2008. Un grand merci à l'association Lien Senior de Roubaix, et notamment à Michel et Bernard. Merci également aux malades et à leurs familles, et à Luc Buet, directeur de recherche au CNRS.
J'ai l'impression que vos sujets se suivent, non ? Ça s'enchaîne, il y a une préoccupation. C'est très très beau. Très très beau, hein, vraiment. Magnifique. Surtout le témoignage, là, on en avait parlé, hein, de la famille, que ça représente pour les familles. Là, c'est très très bien. C'est très très bien évoqué. Peut-être c'est trop serré. Toi, quand tu as un truc très très fort comme ça, peut-être un peu laisser respirer, pas tout de suite la chanson. Pas... Parce que c'est... Enfin, en tous les cas, ce qui est réussi dans tout ce qu'on a entendu jusque-là, c'est que on voit la puissance du média radio. On voit la puissance de ce moyen d'expression. Là, on peut parler de moyen d'expression. Et c'est bien équilibré, je trouve, ton médecin, le gars explique les choses. Il est bien pédago, les éléments de... on peut monter ça autrement. On pouvait le monter autrement. Mais enfin, on a toutes les... On a toutes les indications. Non, c'est très beau. Bravo.
Voilà, bravo pour ce reportage de cette étudiante donc de l'école de journalisme de Lille où nous avons mené donc ce stage avec Antoine Chao sur le reportage radiophonique. Ils sont 14, donc on va pouvoir tous passer d'ici à 16 heures, bien sûr. Mais effectivement, ce qu'on a tous partagé et que vous entendez, que vous partagez avec nous maintenant, c'est effectivement la puissance de ce média formidable, merveilleux. Qui est la radio, tout simplement. On continue donc avec les élèves de cette 82e promotion.
Alors on va écouter Ça se dit pas, un documentaire d'Ava Jamshidi.
Mais putain, mais merde! Mais c'est chiant! Je m'appelle Arthur, j'ai 5 ans et demi. Mais grosse couille! Chiant! Ta gueule! Trou du cul! Gros couillon!
T'aimes bien dire ces mots?
Oui.
Pourquoi?
Parce que c'est très très bien d'en dire.
Ça fait du bien?
Très.
Est-ce que tu peux me dire quel gros mot
Vous vous dites avec vos copains dans la cour de récréation.
Merde.
Et quoi d'autre?
Putain.
Alors, tu peux me raconter qui t'a appris ces gros mots?
En fait, c'est mon copain qui s'appelle Adam qui dit presque toujours putain de merde.
Je dirais plutôt parfois ça m'échappe, connard. Au début, si on dit des vraiment très gros mots, c'est parce qu'au début on sait pas ce que c'est, puis après on n'arrive pas à les enlever de notre tête, donc peut-être que.
Sinon, il y a un autre gros mot, c'est pute.
Est-ce que ça t'arrive de le dire?
Oui, parfois.
Pourquoi tu le dis?
Parce que si les autres m'embêtent, c'est un autre moyen de me défendre et voilà.
Comment ça, c'est un moyen de te défendre?
À la place de les frapper, je les insulte, voilà.
Et toi?
Les gros mots, c'est surtout quand on est énervé sur quelqu'un. Moi, parfois, ça m'arrive quand je suis trop énervée, je dis des gros mots.
Les gros mots, c'est souvent au début d'une bagarre, et si à force ça continue, on commence à se taper tous. Les deux gens qui sont impliqués dans la bagarre, ils se tapent. Les gros mots, c'est toujours au début, pratiquement. Sauf parfois, on commence déjà à taper avant de dire des gros mots, puis ça continue.
Il y a aussi un autre gros mot que j'aime pas trop personnellement, blondasse. Parce que il y en a certains qui me traitent de blondasse parce qu'ils savent pas ce que ça veut dire. Blondasse, ça veut dire être une fausse blonde, c'est-à-dire qu'ils se sont teint les cheveux en blond alors que moi je suis naturellement blonde.
Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con.
Gros con.
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 T'es un con.
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 Dans le Robert, con, nom et adjectif masculin apparu au XIIIe siècle. Du latin, cunus. Sexe, vagin, vulve, pubis de la femme. Pour Flaubert, ces cons rasés font un drôle d'effet. Imbécile, idiot, bête, crétin, débile... Ce qu'il peut être con, elle est vraiment trop conne. Ridicule, inepte. Ce que c'est con la guerre, écrit Sartre. Je trouve ça con. C'est trop con de se quitter comme ça. Pour les variantes, connard, connasse, enfoiré, enflure, enculé, crétin, gland. Pauvre con, sale con, une conne de la pire espèce.
Il y a pédé aussi.
Pourquoi ?
Pédé aussi.
Ça veut dire quoi, pédé?
Pédophile, mais enfin pour nous, c'est pas pareil, je crois.
Oui, mais pour nous, c'est un gros...
Alors, au fait, c'est un homme...
C'est une insulte.
C'est un homme qui paie une femme pour faire l'amour.
Mais non.
Ah, non.
C'est une putain, ça.
Il est bien un pédophile, voilà.
Ça, c'est un pédophile.
Ça, c'est un pédophile, ce que t'as dit?
C'est un pédophile, ça.
C'est un
pédé, c'est un homme qui aime un homme. Un pédophile, c'est quelqu'un qui fait l'amour avec des enfants ou qui...
Des fois, on dit « nique ta mère », enfin...
Oh. Ça, c'est pas très...
Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, « nique ta mère » ?
Ouais. Ça veut dire, au lieu de taper moi, niquer ta mère, je sais pas, je veux pas le dire, en fait, mais ça veut dire « nique ta mère », enfin... J'ai pas envie de le dire, parce que, enfin... Voilà, d'accord.
Pourquoi ?
Parce que c'est pas bien.
Nique lui sa mère, nique lui sa mère.
Le gamin m'a dit nique ta mère. Alors j'ai dit, mais attends. Alors j'ai dit, mais moi j'ai pas l'instrument pour niquer, c'est toi que tu peux niquer ta mère, mais moi je peux pas niquer. J'ai vu le diable. Ils m'ont sauté dessus, il a fallu que je me réfugie.
Ça voulait dire de la niquer, parce que dans mon milieu on disait pas ça, puis c'est pas ma génération. C'est une génération où on disait pas. C'est français, j'en sais rien.
Si,
c'est
de l'argot, alors. Ah non.
C'est de l'argot.
Non, pas du tout, madame.
Et alors, quel est le sens propre en français?
Ben, c'est de une poule et un machin, c'est en de niquer. Elle est lapin unique.
C'est l'argot. Non, c'est l'argot, je vous assure.
Vous ne me dites pas qu'une paire de lapins,
ils ont oui, mais c'est de l'argot. Non, on dit autre chose. Le mot exact, on dit, comment on dit, copuler, copuler.
Copuler, c'était sûr, une chose, oui, ça se dit, c'est élégant. Mais le reste, madame, le reste...
C'est élégant, sauf si on le dit pour les jambes.
Non, non, le reste, quand j'étais à la campagne, il niquait, le chien, le machin, ils sont en train de niquer.
Je vais le chercher dans mon Robert, hein, je vous assure, hein, parce que...
Ça, j'ai toujours entendu.
Et avec Q-U-E-R, ah, ça s'écrit comme ça.
Ah, ça, je ne dirai pas l'orthographe, vous êtes plus
oui,
fort que moi.
Oui, c'est avec un K,
N-I-Q-U-E-R. Verbe transitif.
Mais dites, vous me disiez tout à l'heure la question de niquer. J'en ai parlé au maire, il m'a confirmé, et il m'a dit, vous avez bien fait, c'est exactement le mot. Au maire.
Mais moi, je croyais que c'était un mot traduit de je ne sais pas quelle langue, ou alors argotique.
Non, le maire m'a dit, vous avez raison. Et vous savez, il est professeur, lui aussi. Hein.
Oui.
Il ne m'a pas contrarié. Bref, je regarderai aussi.
Moi, je crois que c'est de l'argot, quand même. Ça veut dire, si c'est de l'argot, on doit le trouver.
Mais non, je crois que j'ai regardé, madame.
C'est pas traduit de l'arabe, ça, c'est sûr. Encore, on ne sait pas si ça ne vient pas de là-bas. Avec une autre orthographe. Et qu'est-ce qu'on en sait?
Non, c'est pas de l'arabe.
Et Toubib, ça vient d'où?
Ah ben, Toubib,
eh oui,
mais c'est pas l'amour,
non, non. Et si ça veut dire faire l'amour, c'est pas un gros mot non plus.
Mais les arabes ne savaient pas ce que ça voulait dire. Mais ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Ils ne savaient pas ce que ça voulait dire, lui.
Mais moi, au début non plus, quand j'ai vu que la N, comment ça s'appelait, le truc, là? N, oui, nique ta mère. Voilà, NTM. C'était nique ta mère, le gros groupe de rap, là, le truc. Mais j'ai compris, mais je croyais que c'était de l'argot. J'ai le droit de dire que je crois que c'est de l'argot. Parce que sinon, c'est un mot qu'on verrait employé par Stendhal aussi, si ce n'était pas de l'argot. Et tiens.
Niquer, apparu en 1890, d'un mot arabe, inik, posséder sexuellement, baiser. J'avais commencé à inviter les filles au restaurant dans l'espoir de les niquer. La psychologie humaine est complexe. Les expressions appartenant au registre sexuel, au plaisir, sont souvent utilisées pour produire des injures. Niquer n'échappe pas à la règle. L'expression « va te faire niquer » suggère à une personne d'aller se faire posséder sexuellement. En registre courant, on dit « faire l'amour ». En registre soutenu, on préférera unir ses intimités ou encore délocaliser sa sexualité.
Merde, con. Tu m'emmerdes, là.
Tête de cul, pile de chacal,
de chacal.
La vache.
Nique ta mère, nique ta mère.
T'es un con, t'es un con.
Merde, merde.
Enfoiré, enfoiré.
Les cagouins, tout puta madre.
Je t'emmerde.
Sale connard.
Enculé.
Merde.
Oh bah merde.
Sale connard.
Bâtard.
Zut.
Qu'est-ce que c'est que cette pâtière? C'est de la merde.
Ça se dit pas. Un documentaire réalisé par Ava Jamshidi en janvier 2008. Un grand merci à Arthur. Merci aussi à Madame Presse, la directrice du groupe scolaire du 17 avenue Bourseau à Paris. Merci à tous les enfants, à Eliane, Daniel et Maria et Nedina.
C'est une bonne idée. Hein. L'envie d'en avoir plus. Mais il y a une scène d'anthologie avec les petites dames autour de Niquet, c'est formidable. Là, il y a 5 minutes, 4-5 minutes, c'est un bijou.
Enfin, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui puisse me contextualiser un peu le sujet, qui puisse me parler des gros mots un peu mieux que...
Oui, mais ça, on s'y attend. Tu vas voir l'historien. D'ailleurs, cunus, là, ça vient de lapin, je te l'avais dit. Hein.
Ouais.
Ça vient d'abord de lapin, conin, qui est l'ancien mot de lapin. Et c'était en argot pour dire le sexe de la femme, parce que c'est poilu que ça se sauve. Mais avant la chatte, après, c'est la chatte qui remplace le lapin. Mais enfin, on peut épiloguer comme ça, ça regarde les historiens du langage et tout. Non, ce qui est vachement marrant, c'est quand t'as les dames qui font elles-mêmes les Alain Rey. C'est génial, parce qu'elles s'interrogent sur la langue. Elles vont loin, d'ailleurs. Elles font les analyses elles-mêmes, quoi. Et c'est dommage qu'on n'ait pas eu d'autres scènes comme ça, mais celle-là, elle vaut, ça rattrape tout le truc. Ça rattrape tout. Après, les gosses, là, on est un peu dans le danger, un peu des gosses, hein, qui cabotinent, on ne sait jamais si sur quel... Ils font les enfants, quoi. C'est les enfants qui font les enfants. Puis c'est marrant, tes micros, là, des définitions bien, bien plates, bien focus. Non, c'est bien. Non, c'est rigolo. C'est très bien.
Voilà, merci aux étudiants de l'École supérieure de journalisme de Lille, Sarah, Ava, Laurie, Julie, Aurélie, Michel, Frédéric, Marie, Émilie, Tony, Alix, Audrey, Charlotte et
et Tiffaine. Merci à Pierre Savary et Yves Renard et à Philippe Di Fifi, le technicien de l'école. Ces reportages ont été réalisés avec la participation d'Antoine Chaouet. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. Pascal Baldassari et Cédric Lalanne étaient de la technique aujourd'hui. Yann Chouka et Coyen Nguyen ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry, qui vous attend au répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.